Chapitre 74. Contact électrique. Des lampes s'allumèrent sous ses pieds. L'ouverture de la trappe avait dû déclencher un système automatique. Il descendit une échelle d'une dizaine de barreaux et finit dans un boyau semi-circulaire aux parois faites de multitudes de roches plates empilées les unes sur les autres. On avait creusé sous la forêt pour y créer une grotte artificielle. Gabriel ne connaissait rien à la région, mais il avait déjà entendu parler d'histoires de juifs réfugiés ou cachés dans les Carpates polonaises durant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être y avait-il un lien, peut-être pas, mais les faits étaient là. Le chalet d'Henri Chmielnik possédait un accès souterrain, et à ce moment-là, Gabriel se remémora la posture de l'homme d'affaires sur son autoportrait, et surtout ses deux index pointés vers le sol, comme pour signifier aux yeux de tous son secret. Il suivit le cordon d'ampoule, se baissa pour éviter les fameuses racines d'arbres qui pendaient incrustées entre les pierres. Des cadres étaient accrochés aux parois, régulièrement espacés. Sous le verre, une feuille blanche avec une phrase chaque fois, écrite d'une belle plume. Gabriel aurait mis sa main coupée qu'il s'agissait de celle de Traskman. Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort? Coexistence alambiquée avec un coyote sauvage? Infiltration homogène pour piano à queue? Ou encore, poids et déplacement relatif du pèse-nerf dans un repère orthonormé? Si la folie d'un être humain avait pu se lire dans une phrase, ça aurait pu être l'une de celles-là. En poursuivant, ses pas le menèrent au Graal, dans une cavité, sur sa gauche, l'atelier du peintre. Tout était encore en place, dans son jus. Les pigments dans leurs récipients, les pinceaux durcis, des dizaines de tubes à essai au fond rouge-noir, rangés dans un support en bois à proximité des gouaches. Gabriel eut la conviction qu'ils avaient contenu du sang lorsqu'il se pencha pour renifler. À côté, des rognures d'ongles regroupées en tas, des touffes de poils noirs roulées en boules, pareilles à des araignées démentes, et toutes sortes de déchets organiques et imputrescibles. Détournant le regard vers un angle, il aperçut une chaîne avec des cerceaux en métal, incrustés dans la roche, tout près d'un feu à pétrole. Il s'accroupit, effleura le métal froid, porta la main devant sa bouche pour se retenir de crier. Julie avait été enfermée ici, sous terre, son visage figé sur la toile d'un fou, d'un tortionnaire. Combien de temps Chmielnik l'avait-il maintenue captive? Qu'avait-elle subi dans ce sous-sol? Il n'y avait pas de reste de nourriture, pas de matelas, rien qui indiquât une détention prolongée. Qu'avait-il fait d'elle et de tous les autres après les avoir immortalisés sur des tableaux? En se redressant, il dut se raccrocher à la paroi pour ne pas tomber. Il avait imaginé des choses abominables, mais pas ça. Où était l'espoir dans un endroit aussi sombre, profond, isolé, empreint de pareille démence? Dans un flash, il revit la mère de Mathilde, suppliante face à lui.
« Appelez-moi n'importe quand, si vous avez la moindre information. Si des choses vous reviennent concernant ma fille, je veux que vous me le disiez. » Ne me laissez pas tomber, d'accord? Par pitié, arrachez-moi à cet enfer.
L'enfer, il était ici, dans l'anonymat de ses boyaux. Gabriel regagna le couloir central. L'espace se rétrécit avant de se déployer de nouveau, comme s'il avait franchi un œsophage. Au fond, une dernière cavité l'attendait, à droite cette fois. Il s'y engagea et tomba sur une espèce de loge secrète, aménagée en intérieur cosy. Vaste tapis kilim au sol, tenture en velours rouge habillant la pierre dont les éclairages soulignaient le liseré couleur or. Au milieu trônait une table ronde, avec en son centre un chandelier portant des bougies à demi consumées. Autour, quatre fauteuils en velours eux aussi. Et partout sur les parois courbes, encore des phrases incompréhensibles dans les cadres. Symphonie sibérienne avec l'ombilique des limbes. Ventre brûlé de vampires et autres rites d'annihilation. Murmure oisif d'une branche de sapin morte. Gabriel étouffait, il ne sentait plus le froid. À côté de chauffage portatif, une armoire vitrée garnie de verres et de bouteilles d'alcool ambrées, du cognac cordage et une bibliothèque en bois précieux alourdie d'une cinquantaine d'ouvrages. Il les feuilleta rapidement, pour la plupart des iconographies d'œuvres d'art célèbres. Il n'y découvrit que des scènes sanglantes, des massacres, des assassinats. Le meurtre s'exposait au cœur d'une scène religieuse, sur un champ de bataille, dans une rue obscure et poisseuse. La femme étranglée, de Paul Cézanne. Une tête décapitée posée sur une lyre dans Orphée, de Gustave Moreau. Des corps gisants, écrasés par la massue d'un géant dans une création d'Henri Camille d'Angers. Gabriel prenait, ouvrait, reposait les différents livres. Rodin, Delacroix, Degas, Munch, Bekchinski et tant d'autres. Des peintres, sculpteurs, écrivains, obsédés à un moment donné de leur vie par la représentation de l'acte ultime, interdit, qu'ils avaient offert à la postérité, l'assassinat. Il feuilleta et feuilleta encore. Le travail de Francis Bacon n'était que violence pure, celui de Vincent Van Gogh, l'expression d'une chute vertigineuse vers l'autodestruction. Des artistes fous, maudits, qui créaient leur chef-d'œuvre au bord de l'abîme, tantôt guéris, tantôt rendus malades par leur art autant salvateur que dévastateur. Gabriel songea à la maison de Traskman, à toute cette folie. Il se décala et s'empara d'un album de David Bowie, rangé à proximité de Crime et Châtiment et de Deux sangs froids de Truman Capote. One Outside 1995. Il se rappelait que le chanteur y parlait de meurtre et d'art. L'un au service de l'autre. Le meurtre. L'art. Ces rayonnages portaient haut et fort le fruit de cette improbable alliance. Gabriel s'approcha de la table, effleura les fauteuils, remarqua le tissu élimé au niveau de l'assise. Aucun doute, ils étaient quatre à se réunir ici, dans le plus grand secret des ténèbres d'une forêt polonaise. Quatre monstres qui dégustaient de bons alcools, entourés de livres parlant d'horreur, dans la douceur de chauffage d'appoint, alors que des victimes étaient séquestrées à deux murs de là dans le froid et le noir. L'art et le meurtre. Les mots dansaient dans la tête de Gabriel. Il pensa à Traskman, à Gaëssa, les vit assis face à lui à se partager leurs secrets, leurs obsessions, leurs proies. Un objet était enroulé dans un linge noir, à gauche du chandelier. Gabriel écarta les pans de tissu et découvrit la version agrandie du pendentif de jus. Un livre en laiton et éteint, aux dimensions semblables à celles d'un vrai roman. Il était extrêmement lourd. En le secouant, Gabriel eut l'impression qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il le scruta avec attention. Il se rappelait vaguement les manipulations qu'avait faites Paul pour ouvrir le pendentif. Pousser un bouton caché. Retourner le livre et basculer un relief sur la partie supérieure gauche. Déclic. En tirer un autre. Après plusieurs essais, il vint à bout du mécanisme. Il ne restait qu'à appuyer sur un autre cercle au centre d'un motif dans le coin inférieur. La couverture s'écarta telle une invitation. Dans la cachette, un autre petit livre en cuir marron clair, pas plus grand qu'un carnet, et sur lequel était gravé un xyphopage, identique à celui sur la porte secrète chez Traskman. Il portait un titre inscrit à l'encre dorée. « Société secrète du xyphopage ». Gabriel le sortit de son compartiment et l'observa, la gorge serrée, comme s'il tenait un objet maudit, toxique, recelant les pires révélations. L'ouvrage contenait une cinquantaine de pages manuscrites, d'une belle écriture noire et régulière. Celle de Caleb Traskman. Il commença la lecture.